Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire du poker macabre à Corté. Un document de Yuki Vatier, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Xavier Luciani ne peut plus nier. Il passe aux aveux. Ce soir du dimanche 23 janvier, raconte-t-il, il voulait rembourser Jojo et il avait préparé une enveloppe de 13 000 euros.
Il va reconnaître qu'il s'est rendu chez Jojo, qu'une bagarre s'est instaurée, qu'il a frappé Jojo.
Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté.
Le temps monte entre les deux protagonistes. Là, il se saisit d'un couteau. Donc, rappelons qu'effectivement, la victime est collectionneur de couteaux. Il nous explique qu'il se saisit d'un couteau et qu'une bagarre éclate entre eux et qu'il porte un coup au visage, donc sur le côté gauche du visage de la victime, qui là tombe à la suite de ce coup au sol.
Jojo tombe au sol, complètement KO, raconte Luciani. Pendant que son amant se met à table, Nathalie nie en bloc. C'est tout juste si elle admet qu'elle est la maîtresse de Luciani et que Jojo lui courait après. Pour le reste, elle n'est au courant de rien. Interrogée sur la complicité éventuelle de Nathalie, Xavier Luciani, qui jusqu'ici n'avait pas parlé de sa maîtresse, change de version. Ce soir-là, il était chez lui, malade. Nathalie l'a rejoint après son service à l'échiquier. Il avait une gastro, elle l'a soignée. Soudain, elle a reçu un coup de fil. C'était Jojo. Xavier a vu le nom du patron de l'Oasis s'afficher sur le téléphone. Jojo, qui voulait la voir à 23h39. Jaloux, Xavier a dit qu'il partait jouer aux cartes. En fait, il s'est caché en bas de l'immeuble. Il a vu Nathalie sortir à son tour. Il l'a suivie. Elle est montée dans une voiture, celle de Jojo.
Là, son sang manifestement ne fait qu'un tour. Il se rend au restaurant L'Échiquier pour se munir d'un objet. Il tombe sur un rouleau pâtisserie et se transporte donc au domicile de M. José Vincenzini. Là, il constate que la porte est restée entrouverte. Il pénètre immédiatement, telle une furie, dans l'habitation, se rend là où il constate qu'il y a de la lumière, à savoir une chambre.
Xavier Luciani surgit dans la chambre. Pendant qu'il se rue sur Jojo, Nathalie s'enfuit, terrorisée.
Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani.
Xavier Luciani, au moment où il va se ruer sur ce lit, sur lequel se trouve Jojo, qui, il faut le dire, est déshabillé, puisque Nathalie avait commencé une fellation à son égard, va se ruer sur lui et l'autre, sentant le danger et la violence qu'il y avait en Xavier Luciani, va lui proposer de l'argent. Ça va attiser encore plus la rancœur de Xavier Luciani à son égard, qui va se sentir encore plus humilié par cet homme qui ne pense qu'à acheter l'autre. Et ça, il ne peut pas. Et ça va accentuer le comportement. Il va le conduire vers ce coffre. Il va faire ouvrir le coffre. Et à ce moment-là, il va se battre avec lui. Et un coup va être donné, qui va être un coup mortel.
Xavier Luciani a tué Jojo à coups de rouleau à pâtisserie. Il vide ensuite le coffre qui contenait, selon lui, 2000 euros. Il vole aussi les couteaux et les fusils pour faire croire à un cambriolage. Puis il enroule le corps de Jojo dans une couette avec du scotch de déménageur. Et il le charge dans la malle de sa voiture, direction Santa Lucia di Mercurio, un petit village à proximité de Corté. Là-bas, il y a une porcherie et donc des cochons. Et les cochons, raconte Luciani, ça mange de tout, même des cadavres. C'est comme ça qu'il a décidé de se débarrasser de la dépouille de Jojo.
Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté.
Et là, il commence à s'atteler à une très pénible tâche, en ce sens qu'il s'affaire à découper la tête.
Xavier Luciani a dit qu'il avait coupé la tête parce que dans la mémoire insulaire, ce que je ne partage pas du tout, les cochons ne mangeaient pas les cheveux et que de ce fait, il fallait couper la tête pour que le corps, qui une fois jeté aux cochons, puisse être mangé par ces derniers.
Il nous explique qu'il a le plus grand mal à agir de la sorte et finalement, écœuré par la besogne, par la sale besogne, il décide de remettre le corps décapité dans le véhicule Peugeot 106 donc qu'il avait utilisé et de placer dans un sac distinct la tête avec les couteaux ayant servi à la découpe ainsi que divers effets vestimentaires appartenant à la victime.
Un sac poubelle qu'il jette dans un conteneur. Quant au corps sans tête, il le laisse dans le coffre de sa voiture qu'il va garer sur un terrain qui appartient à sa tante. Il fait trop froid, la terre est gelée, il creusera une fosse quand il fera meilleur. Le corps de Jojo Vincenzini reste là pendant 2 mois jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Pendant que son amant raconte ces détails sordides, Nathalie réfléchit. Elle souhaite maintenant faire des aveux. C'est vrai, Jojo lui courait après, ils ont fini par devenir amants, raconte-t-elle. Ce dimanche soir, après son coup de fil, elle monte effectivement dans sa voiture. En arrivant chez lui, Jojo laisse les clés sur le contact. Il n'en aura que pour quelques minutes, dit-il. Il emmène Nathalie dans la maison. Contrairement à ses habitudes, il ne ferme pas la porte derrière lui.
Maître Jacques Raffali, avocat de Nathalie Battesti.
Ils entrent, Vincenzini se déshabille, ils vont faire ce qu'ils ont à faire a priori, et là arrive un homme masqué qui bouscule Nathalie Battesti, qui lui dit « casse-toi ».
Nathalie s'enfuit, puisque lui, il s'était masqué de manière à ce que, dit-il, elle ne le reconnaisse pas. En ce sens qu'il avait mis une tenue noire avec une capuche qui lui masquait la moitié du visage.
Nathalie affirme qu'elle n'a pas reconnu Luciani. D'ailleurs, elle croyait qu'il était en train de jouer aux cartes. Elle est revenue chez elle, paniquée. Xavier est rentré à 3h du matin. Benoît Cousinet, Luciani et Battesti ont donc parlé en garde à vue. Est-ce que leurs déclarations tiennent la route ?
Xavier Luciani s'attribue la responsabilité de la mort et de la disparition de Joseph Vincenzini. Les indications qu'il donne quant à la manière dont il a procédé correspondent aux indices matériels qui sont recueillis. Nathalie Battesti, ses déclarations sont beaucoup plus alambiquées.
Et pourquoi n'a-t-elle pas raconté donc cette agression aux gendarmes ?
Elle a dissimulé la vérité parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait une relation avec la victime. Elle prétend qu'elle est embarrassée par cette relation qu'elle a pu avoir avec la victime. Elle prétend ensuite qu'elle a peur de représailles.
Une chose étonnante dans ce dossier, c'est quand même ce cadavre qui est dans la voiture de Luciani. Comment se fait-il qu'il n'ait pas cherché à s'en débarrasser ? Comment se fait-il qu'il le laisse pendant 2 mois dans cette voiture stationnée chez sa tante ?
Il faut savoir que la voiture dans laquelle il conserve le corps, il la place sur un terrain agricole relativement isolé, chez une tante, dans la montagne à Corté. De l'extérieur, il était difficile de voir qu'il y avait un corps dissimulé dans la voiture. Donc, je pense qu'il n'avait pas de raison particulière de penser que sa tante, habitant là, allait s'intéresser à la voiture qu'il y laissait. Et quant à savoir qu'est-ce qu'il attendait, il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en hiver, à Corté en montagne. C'est un hiver qui est assez rigoureux, d'après ce que je me souviens, et le sol était gelé, il est difficile d'enterrer le corps. On peut penser que Xavier Luciani aussi voulait trouver vraiment une manière définitive de se débarrasser du corps, et que tant qu'il ne l'avait pas trouvé, il gardait le corps dans cette voiture.
Nathalie affirme qu'elle n'était pas dans le coup. Et Xavier confirme. Elle est mise en examen pour non-dénonciation de crime seulement, Xavier Luciani, lui, pour assassinat. 2 avril 2005. Corté pleure l'enfant du pays. Les obsèques sont d'autant plus douloureuses que c'est un corps sans tête que l'on enterre.
Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincencini.
C'est vrai que quand je me suis retrouvé devant ce caveau, que j'ai vu ce cercueil qui était déposé là, je n'avais pas l'impression que c'était mon ami qu'on enterrait, puisque je savais que son visage n'était pas dans ce caveau.
Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani.
En Corse, on ne peut pas accepter que si on donne la mort, même par accident, à un individu, on mutile et on ne respecte pas le corps du mort. Je crois que toute la Corse était d'accord pour condamner un tel acte.
Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
Il y a en plus la dimension particulière du corps qu'on veut donner à manger aux cochons. Pourquoi c'est particulier ? Parce que d'abord, c'est répugnant en soi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que ça rappelle les pratiques de l'anonymat séquestre qu'est la mafia sarde. Et donc, de manière peut-être un peu inconsciente, mais pour une partie de l'opinion, se joue aussi cette petite notion de racisme. Ah non, c'est en Sardaigne qu'on donne les gens à manger aux cochons. Nous, on fait pas ça.
L'horreur a pourtant été accomplie par un Corse. Tous les regards se tournent donc vers Luciani. Pourquoi a-t-il fait ça ? Luciani va pouvoir, comme Nathalie, s'expliquer devant le juge d'instruction. Xavier va répéter avec rancœur qu'il n'a pas supporté que Jojo lui pique sa maîtresse. Comme si le patron de l'Oasis voulait se rembourser en couchant avec Nathalie.
Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani.
Au-delà des dettes, il y a cette volonté d'humilier par cette relation sexuelle, et du moins c'est comme cela qu'il le ressent, vers celle qui comble son vide affectif et pour laquelle il a quand même des sentiments.
L'humiliation. C'est ça, finalement, qui aurait poussé Luciani au pire. Jojo, tout lui réussissait. Alors que lui, Xavier, perdait sur toute la ligne. Cocu, endetté et peut-être bientôt ruiné. Jojo sortait avec sa maîtresse et lorgnait sur l'échiquier pour récupérer son argent. Xavier l'avait entendu dire sur le cours Paoli. Jojo lui aurait ainsi infligé vexation sur vexation.
Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
Il prétend que Jojo Vincencini avait pris pour habitude de venir dîner chez lui au restaurant, d'y inviter des amis, de les faire rentrer à l'échiquier, de se comporter comme le maître de maison, et pour finir par partir sans payer, ce qui, en Corse, on peut aisément le comprendre, mais en Corse revêt beaucoup plus qu'une simple signification d'escroquerie. En Corse, ça veut dire « chez toi, je suis chez moi ». Et ça, pour n'importe qui, ici, ça ne peut pas passer.
Et je crois que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et va mettre en transe Xavier Luciani, c'est l'attitude qu'a eue Jojo Vincencini à l'égard d'une de ses filles. Un jour, Jojo va donner 20 euros à une de ses filles, car il y avait dans la ville de Corté ce jour-là une fête foraine, un Luna Park. Et il avait écrit sur ce billet de 20 euros Luna Park. Et il a dit à cette gosse, tiens, voilà ce billet pour aller au Luna Park. Ça sera peut-être les derniers.
Un geste sur lequel Xavier Luciani va s'étendre longuement devant le juge. Peut-être parce qu'en Corse, il prend une résonance particulière, comme l'a constaté le psychiatre qui l'a expertisé.
Docteur Yves Thirode, expert psychiatre.
N'oublions pas l'honneur familial corse, hein, c'est-à-dire on défend sa famille. Donc, on honore ses ancêtres, On se bat pour l'honneur et la mémoire des ancêtres et on protège sa famille la plus proche, les enfants et les cousins. Et dire à une fille, ton père ne pourra plus te nourrir, ne pourra plus te protéger, ne sera plus rien pour toi, c'est l'humiliation totale.
Pour Luciani, il fallait faire quelque chose.
Ce loser, qui fit amant perdait sur tous les tableaux, avait besoin de reprendre un positionnement qui, dans le fond, devait passer par un acte quasi guerrier.
Finalement, Jojo l'a bien cherché. Xavier ne regrette rien, même si les choses sont allées plus loin qu'il ne le voulait.
Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani.
À aucun moment, il n'est question pour Xavier Luciani de donner la mort à Giovin Chancini, mais de le marquer à vie, de manière à ce que les Cortenay se souviennent que son honneur a été rétabli.
Pour son honneur, pour sa fierté de père et d'homme. Xavier Luciani voulait juste donner une correction à Jojo. Il jure qu'il n'a pas prémédité son geste. Mais Nathalie donne une autre version au juge. L'homme qui s'était rué dans la chambre de Jojo et qu'elle n'avait pas reconnu, cet homme-là avait fait tomber de sa poche un rouleau de scotch. En emportant avec lui ce rouleau, Xavier Luciani avait-il prévu de ligoter un cadavre? Et l'enclos à cochons? Maintenant, Nathalie s'en souvient. Bien avant le meurtre, son amant lui avait demandé si elle connaissait une porcherie. Dominique, que donnent les expertises des prélèvements effectués dans la chambre de Joseph Vincenzini?
Dans sa chambre, les gendarmes de la section de recherche vont prélever beaucoup de poils et de cheveux. Prélèvements qui vont être envoyés à l'IGNA, l'Institut génétique Nantes-Atlantique, et analysé par le docteur Lepageolec. C'est une biologiste spécialiste de l'ADN qui travaille sur tous les gros dossiers criminels. Donc elle va extraire de ses cheveux et de ses poils de l'ADN. Et on va découvrir que ces ADN correspondent d'une part à Nathalie Battesti, d'autre part à Xavier Luciani. Ça veut dire que l'un et l'autre sont passés à un moment donné dans la maison, dans la chambre de Joseph Vincenzini.
Et est-ce qu'il y a d'autres ADN?
Oui Frédéric, il y a d'autres ADN. Des ADN inconnus, qu'on retrouve sur des poils et des cheveux prélevés dans la chambre et dans la voiture de Joseph Vincenzini. Ces ADN inconnus, ça donne un doute aux enquêteurs. Parce que les enquêteurs se disent, peut-être que Luciani n'a pas agi tout seul. Peut-être que quelqu'un l'a aidé, quelqu'un est entré avec lui dans la maison, quelqu'un s'est assis dans la voiture de Joseph Vincenzini, quelqu'un dont on a juste un ADN, on ne sait pas encore qui.
C'est normal de retrouver des ADN différents dans une maison ou dans une voiture?
Pas forcément chez Joseph Vincenzini, parce que Vincenzini, c'est un homme secret, c'est un homme mystérieux, c'est un homme qui vit seul chez lui, qui ne reçoit pas de visiteurs. Donc ça surprend la présence de ces ADN inconnus dans sa chambre et dans sa voiture.
Autre expertise, l'autopsie donc du corps de Joseph Vincenzini. Est-ce qu'on arrive à déterminer la cause de la mort?
La tête était séparée du corps avec une arme tranchante, ça c'est évident. Sauf que là, dans cette autopsie, on découvre que ça s'est passé un peu de façon précipitée, un peu à la hâte. C'est-à-dire que pour séparer la tête du corps, ils n'ont pas coupé au niveau de la gorge, mais le cou est tombé au niveau de la mandibule. Et en fait, le corps est décapité comme ça. Donc on va retrouver une partie du cou sur le torse. On découvre aussi que Joseph Vincenzini a plusieurs côtes cassées. Il a peut-être été battu, il a peut-être reçu des coups de pied. En tout cas, il faut vraiment frapper fort pour casser plusieurs côtes comme ça. Maintenant, sur les causes de la mort, c'est assez difficile de se prononcer puisque sur la partie sur laquelle vont travailler les médecins légistes, c'est-à-dire le corps sans la tête, il n'y a aucune blessure au niveau du cœur, du foie ou en tout cas d'un organe vital, d'un poumon. Donc Frédéric, on pense que la mort, elle a été provoquée par une blessure à la tête, sauf que on ne peut pas l'établir formellement puisque la tête, elle est manquante, elle est toujours introuvable.
Un an passe, l'instruction est terminée. Les avocats de Xavier Luciani et de Nathalie Battesti attendent la date du procès. Quand le 22 janvier 2006, un événement vient bouleverser les cartes. Une bombe. Aix-en-Provence, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2006. Il est 3h du matin quand une bombe explose devant le centre des impôts. Le poseur de bombes meurt dans l'attentat. Il est soupçonné d'appartenir au FLNC du 22 octobre.
Alexandre Vincent, qui était bien un militant du FLNC du 22 octobre, ce groupe clandestin a revendiqué hier soir dans un communiqué l'attentat contre la perception d'Aix-en-Provence qui lui a coûté la vie dimanche dernier. Dominique Pasqualacci, son complice présumé, a été mis en examen cet après-midi à Paris.
Dominique Pasqualacci, un prof d'archéologie qui enseigne à l'université de Corte. Dans le cadre de l'enquête sur la cellule du 22 octobre, plusieurs personnes sont mises en examen avec lui. Parmi elles, un certain Xavier Luciani. C'est le juge antiterroriste Gilbert Thiel qui est en charge de l'instruction. Gilbert Thiel, vous êtes juge antiterroriste, vous êtes juge d'instruction chargé de l'attentat d'Aix-en-Provence. Pourquoi Xavier Luciani est-il entendu dans cette affaire alors qu'il est mis en examen et en prison à ce moment-là, au moment des faits, pour l'assassinat de Vincenzini ?
À travers les investigations, la téléphonie, le relationnel, les personnes entendues, on s'aperçoit que Dominique Pasqualacci fréquentait le restaurant de Xavier Luciani, l'échiquier à Corte. Xavier Luciani avait prêté son concours actif à Dominique Pasqualacci en mettant à sa disposition les cuisines de l'échiquier pour y préparer, c'était son terme, ses tambouilles. Les tambouilles, c'était des mélanges explosifs. Simplement, lorsqu'il est entendu dans le cadre de son implication présumée dans l'organisation terroriste FLNC du 22 octobre, ce Xavier Luciani, tout d'un coup, il se met à parler d'autre chose. Il se met à parler des faits pour lesquels il est en attente de jugement, cet assassinat, au cours duquel Vincenzini a trouvé la mort. Et surtout, il va mettre en cause Dominique Pasqualacci.
Pourquoi Luciani donne-t-il Pasqualacci ? Pourquoi il le balance ? Pourquoi le fait-il ?
Je n'en ai absolument aucune idée, sinon je vous la dirai.
Pasqualacci donc est interrogé à propos du meurtre de Vincenzini. Est-ce qu'il confirme ?
Il est donc en garde à vue dans le cadre d'une procédure terroriste. Et ce qu'on va me raconter, c'est qu'il était en fin d'audition, une de ses auditions, et qu'à un moment, alors qu'il était resté seul avec un seul fonctionnaire de police, et qu'il était attaché à l'anneau de sécurité par une menotte dont il avait demandé préalablement qu'on lui desserre un peu parce qu'elle lui faisait mal, il a tiré sa main et les analyses médico-légales par la suite ont démontré qu'il s'était fracturé le pouce tellement il avait dû tirer fort. Il s'est mis sur le bord de la fenêtre et il a sauté.
Il est tombé de quel étage ?
Troisième étage.
C'est-à-dire un vol plané de 12 mètres ?
Oh oui, bien 12 mètres. Il est tombé au ras d'une voiture en stationnement dans la cour. On a supposé, mais ce ne sont que des suppositions, qu'il avait voulu atterrir sur le toit de la voiture à la manière Spaggiari, parce que c'est un excellent amortisseur. Mais on n'en sait rien, lui a toujours dit qu'il ne se souvenait de rien. Mais on est bien obligé quand même de faire le rapprochement entre la date de la défenestration et les aveux de Xavier Luciani.
Xavier Luciani a donc balancé Dominique Pasqualacci. Il affirme que ce dernier a participé avec lui au meurtre de Jojo. Étrange. Lui qui a assumé seul pendant plus de 2 ans la responsabilité de cet acte, pourquoi dénonce-t-il maintenant le prof d'archéologie ? S'est-il senti lâché par Pasqualacci dans le cadre des affaires terroristes ? Est-ce une façon de se venger ? Toujours est-il que Pasqualacci saute par la fenêtre 2 jours après les déclarations de Luciani. Maître Pascal Garbarini, vous êtes l'avocat de Dominique Pasqualacci. Il s'est grièvement blessé lors de cette chute. De quoi souffre-t-il exactement ?
Il est sur chaise roulante et il a un bras qui est pratiquement paralysé.
Lourdement invalide.
Oui, il est à 80%, 90% handicapé et en revanche avec un cerveau qui fonctionne très très bien.
Et pourquoi s'est-il jeté par la fenêtre comme ça ?
Peut-être une volonté de fuite, peut-être d'évasion, ou en tous les cas, de trouver, mais il n'a peut-être pas assez réfléchi, de mettre un terme à la garde à vue à laquelle il participait et qui a été particulièrement virulente.
Alors, qui est-il justement votre client? C'est un nationaliste pur et dur, un intellectuel? C'est qui?
Je crois que c'est un mélange de tout ça. C'est une personnalité très complexe, très attachante. C'est quelqu'un qui est docteur en archéologie, qui a fait des recherches qui ont d'ailleurs toutes été publiées. Et également, l'autre face, c'est qu'il est nationaliste corse. Il a des convictions politiques qui sont très affirmées. Et il croit vraiment à ce qu'il dit.
Quand il est enfin rétabli et que les policiers peuvent l'entendre, à propos justement du meurtre de Joseph Vincenzini, qu'a-t-il dit pour répondre aux accusations de Xavier Luciani?
Il est dans le rejet total. C'est même pas la négation, c'est le rejet. Par rapport aux faits qui sont commis contre Vincenzini, en étant cortonais lui-même, en ayant une famille qui est très implantée, très appréciée. Hein.
Il le connaît, Vincenzini?
Bien sûr. De toute façon, là, on est dans une équipe où tout le monde se connaît. Il n'y a que des cortonais. Et qu'il soit accusé dans cette affaire-là, pour lui, c'est une honte. C'est une honte qu'il n'acceptera jamais, ni pour lui, ni pour sa famille. Et puis, de toute façon, Pasqualage, il n'a aucun conflit avec Vincenzini.
Et avec Luciani?
Avec Luciani, il n'a pas de conflit non plus.
Ils se connaissent bien quand même.
Ils se connaissent très bien, ils sont devenus potes, comme on dit, ils s'apprécient mutuellement. Mais encore une fois, en aucun cas, de la manière, du mode de fonctionnement que je connais, parce que Pasqualaggi, je le suis maintenant depuis plusieurs années, il ne peut pas imaginer un seul instant aller braquer la maison de Vincenzini, tuer Vincenzini et se débarrasser du corps dans les conditions que l'on connaît. C'est pas possible.
Comment il explique les accusations de Luciani contre lui?
Ou Luciani essaye de se défausser, ou Luciani protège quelqu'un d'autre.
Xavier Luciani, Nathalie Battesti, Dominique Pasqualaggi. Ça fait donc maintenant 3 personnes mises en examen dans l'assassinat de Joseph Vincenzini.
Oui, Frédéric, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là parce que Nathalie Battesti, elle est entendue par la police antiterroriste dans le cadre des attentats terroristes, puisqu'elle est la maîtresse de Xavier Luciani. Elle va confirmer l'implication de Dominique Pasqualaggi dans le meurtre de Joseph Vincenzini. Elle va donner un autre nom, celui-ci. Sébastien Giudicelli.
Et c'est qui, ce Sébastien?
Alors, elle dit qu'il était sur les lieux du meurtre, c'est le neveu de Xavier Luciani. Il est en prison, Giudicelli. Il est en prison au moment où on parle, il est en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir commis 2 attentats terroristes commandités par Dominique Pasqualaggi, qui était sur place d'ailleurs. Alors, Battesti, Giudicelli était sur les lieux du meurtre.
Ça fait 4.
Ça fait 4 et ça va bientôt faire 5. Parce que dans le cadre des affaires de terrorisme instruites par le juge parisien Gilles Bertil, plusieurs personnes vont être arrêtées et parmi elles, il y a ce garçon, Joseph Sabiani. Et Sabiani, spontanément, il va dire aux policiers, le 9 novembre 2007, il va leur dire « J'ai été approché par l'équipe pour participer à l'opération Vincenzini ». Donc ça fait 5.
Le roi et son valet, Xavier Luciani et son neveu. Sébastien n'est pas tout à fait un inconnu dans cette affaire. Le jour de l'arrestation de son oncle, il s'était présenté spontanément aux enquêteurs. Dans la voiture de Xavier, on allait forcément retrouver ses empreintes, il la conduisait régulièrement. Interrogé par les gendarmes, il avait alors fourni un alibi en béton. Alibi qu'il réitère alors que l'instruction s'intéresse à son emploi du temps, ce fameux dimanche 23 janvier 2005.
Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
Le père de Sébastien, qui n'est pas franchement un foudre d'éloquence, ni un stratège de l'alibi, bien qu'il soit un ancien policier, va expliquer que son fils n'a pas pu faire le coup avec les autres. Et pour cause, son fils était en train de fêter l'anniversaire de son père avec sa famille dans la bergerie des Guidicelli. Ce à quoi les policiers lui font remarquer qu'il n'est pas né le 23 janvier, mais il est né le 21 janvier. Réponse imparable du père, oui, je suis né le 21 janvier. Mais cette année, ça tombait un vendredi, et par superstition, ce qui est vrai, c'est une superstition qui existe en Corse, on ne fait rien le vendredi. Donc nous avions repoussé l'anniversaire au dimanche.
Mais en garde à vue, la famille craque. Elle avoue qu'elle a couvert Sébastien, qui s'effondre à son tour. Oui, il est bien le complice de son oncle.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du poker macabre à Corté. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.